Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé. Et Jean-Marc Sopcich, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec PharmaManager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fine, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur Nutri Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette émission Nutractu, la seule émission radio consacrée à la nutraceutique chaque lundi sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous, merci aussi de nous suivre en podcast si vous n'êtes pas sur le live. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune des émissions. Notre invité du jour, ça fait longtemps tiens, que nous ne l'avions pas reçu et c'est toujours un plaisir. C'est Pascal Lebras, le CEO d'Expansion Consulting. Bonjour Pascal.
Bonjour Fabrice.
Vous allez bien Pascal, ça va ?
Ça va très bien, merci, et vous ? Ça va ?
Bon, oui, en pleine forme. En plus, je sais que je vais vous avoir aujourd'hui, donc on sait qu'on aura des chiffres aussi. Ça, c'est des chiffres, des stats, des indicateurs bien réels. D'ailleurs, il y a des études que vous avez faites à l'époque, enfin, c'est la saison dernière, ça passe vite, qui ont été très appréciées, qui sont toujours dispo hein, sur les émissions. Vous pouvez aller voir notamment les émissions du Tractu sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, on vous reçoit parce qu'on a déjà le plaisir de vous recevoir, mais parce que vous avez créé une charte de comment vous avez dit d'éthique,
une charte éthique.
Vous y avez apposé un logo et ce que je viens de dire, chers auditeurs, ça n'a aucun sens. On va reprendre ça depuis le début. Non, mais voilà, vous avez créé une charte éthique contractuelle et d'un logo qui témoigne de cet engagement. Comment les marques vont pouvoir l'utiliser? À quoi ça sert exactement ce logo? On sait qu'aujourd'hui, les études d'efficacité, les études en vie réelle, les études cliniques, enfin, il faut prouver. De toute manière, aujourd'hui, il faut prouver. Le complément alimentaire, il est sur le grill, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est pas l'efficacité tant du complément ou l'utilité du complément qui est on va dire attaquée, c'est plutôt l'efficacité parce qu'on sait que c'est utile. Maintenant, est-ce que c'est efficace et comment prouver que c'est efficace? Les marques ont besoin aussi d'avoir des ingrédients, le consommateur veut des compléments efficaces, les marques elles ont besoin des ingrédients aussi efficaces. Et bref, comment on fait? Est-ce que aujourd'hui, mon cher Pascal, après cette intro un petit peu longue, certes, mais qui
chaotique,
un petit peu longue, j'ai pas osé dire chaotique, mais je vous remercie de m'enfoncer. Merci de votre bienveillance. Bon, où est-ce qu'on en est dans ce marché nutraceutique en pleine expansion? Beaucoup de promesses marketing. Est-ce que la preuve scientifique, c'est devenu un levier stratégique? Est-ce que c'est une obligation de survie quasiment?
Alors, je ne sais pas si c'est une obligation de survie, mais en tout cas, ça nous semble être une obligation pour des raisons de crédibilité déjà, et puis également pour des raisons de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs de compléments alimentaires se retrouvent face à une offre qui est quand même pléthorique, avec des laboratoires qui font un travail conséquent, important sur leurs formules, et puis d'autres laboratoires qui vont se contenter de faire des me-too, comme on dit, c'est-à-dire des formules qui sont peut-être moins performantes et moins poussé. Et donc, au milieu de tout ça, les consommateurs ont parfois du mal à s'y retrouver et se posent la question, non pas en effet, comme vous le disiez Fabrice, de l'utilité du complément alimentaire, ça aujourd'hui je crois que c'est un fait, mais en revanche, de la crédibilité ou plutôt de l'efficacité d'un complément alimentaire comparé à un autre complément alimentaire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les études permettent de répondre à cette interrogation des consommateurs. Alors, dans le panel des études, il y a bien sûr les études cliniques hein, qui ont une grande valeur, une valeur scientifique et qui en même temps représentent un coût très élevé et aussi une durée d'étude qui est longue. Hein. Une étude clinique, c'est entre 18 mois et 2 ans. Et puis de l'autre côté ou à côté, on peut avoir bien sûr des études observationnelles, interventionnelles et puis des études en vie réelle qui sont les études qui vont permettre de tester les produits auprès d'une population sur un temps donné et, comme le nom l'indique, son nom l'indique, en vie réelle. Voilà. Donc, cette notion d'étude, elle est aujourd'hui fondamentale. Je ne sais pas si c'est un enjeu stratégique, mais on peut le dire quand même. Elles sont fondamentales pour renforcer la crédibilité et surtout la confiance auprès des consommateurs.
Alors, est-ce que toutes ces études-là se valent?
Alors, elles se valent, oui, en termes de perception consommateur. Je vais être peut-être décevant pour les laboratoires qui font des études cliniques, mais quand on interroge, et on a fait plusieurs études sur le sujet de perception des consommateurs sur une étude clinique ou une étude en vie réelle, bah finalement, les consommateurs ne font pas la différence parce que ce ne sont pas des experts. Ils imaginent simplement qu'une étude clinique, c'est une étude qui a été faite dans un laboratoire, avec des éprouvettes ou à l'hôpital, alors que l'étude en vie réelle, c'est une étude qui va leur correspondre, puisque c'est ce qu'on appelle en marketing la stratégie du moi-même. C'est-à-dire, si ça marche pour les autres dans leur vie, qui est la même que moi, consommateur, à ce moment-là, ça va marcher pour moi. Donc, il y a une perception qui est une perception, on va dire, scientifique des deux côtés, mais avec, je dirais, un attachement plus proche sur la vie réelle du consommateur.
Mais est-ce qu'on ne peut pas se demander, parce qu'il y a l'étude clinique qui, pour le consommateur, lui, ne, il ne va pas forcément dissocier les différents niveaux d'études, mais... En gros, pour des pharmaciens, pour des prescripteurs de santé, et même après pour une communication, hein, pour les labos, est-ce que l'étude en vie réelle, c'est une vraie démarche scientifique ou c'est un outil marketing un peu déguisé ?
Alors, c'est une vraie démarche scientifique, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la charte éthique que nous posons. Ces démarches scientifiques, d'ailleurs, on voit de plus en plus, hein, on fait aussi des études de tests auprès des pharmaciens et auprès des médecins, donc globalement auprès des professionnels de santé, on voit qu'ils apprécient l'étude en vie réelle. Ils ne la positionnent pas au même stade, si vous voulez, de vis-à-vis d'un produit. Ils vont considérer l'étude clinique plutôt comme une étude en amont, et ensuite, en aval, l'étude en vie réelle qui va permettre de comprendre comment vont réagir les consommateurs, pas seulement au niveau de l'efficacité, mais aussi au niveau de la perception de la rapidité, au niveau de la perception de la galénique et donc de la bonne observance, notamment, qui peut être testée dans le cadre des études en vie réelle. Donc aujourd'hui, les professionnels de santé n'opposent pas l'étude. Alors, c'était le cas il y a 15 ans, ils opposaient les deux. Aujourd'hui, ils n'opposent pas l'étude clinique et l'étude en vie réelle. Ils les voient plutôt comme une succession d'outils qui permettent de prouver l'efficacité d'un produit.
Alors, l'étude clinique, bon, ça, c'est un peu le top du top. Ça prend des années et on va dire que c'est pas non plus le même coût. Maintenant, c'est pas le même niveau, mais l'étude en vie réelle, vous l'avez dit, hein, ça permet véritablement de d'avérer quand même de l'efficacité d'un produit. Mais est-ce que c'est obligatoire d'avoir au moins ou l'un ou l'autre aujourd'hui pour un labo, pour une marque, pour vous, sur le marché du complément alimentaire? Est-ce qu'on peut se passer de ce genre d'outils finalement qui sont à la fois scientifiques mais qui servent in fine à rassurer le consommateur, donc de vente?
Alors, de notre point de vue, notre regard, mais on pratique, nous, les études en vie réelle, ça nous semble indispensable. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est le marché de la santé. On s'adresse donc à des consommateurs, mais qui peuvent être par ailleurs des patients. Hein. Et donc, la notion de preuve d'efficacité, elle nous paraît aujourd'hui incontournable pour les laboratoires, que ce soit des laboratoires qui font directement l'étude en vie réelle ou l'étude clinique auprès de patients ou auprès de volontaires, ou un ingrédientiste qui, en amont, sur sa formule, va la tester pour apporter les preuves d'efficacité de sa formule.
On marque une toute petite pause et après, on revient et vous nous parlez un petit peu de cette charte éthique, de ce logo, comment ça fonctionne, pourquoi vous l'avez mis en place. C'est dans un instant sur Nutri Radio, restez avec nous.
Découvrez Nutri TV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. Nutri TV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Nutractu sur Nutri Radio.
C'est Pascal Lebras, l'invité de ce Nutractu aujourd'hui. Pascal Lebras, le CEO de Expansion Consulting, qui nous parle de la mise en place de cette charte éthique et de ce logo apposé qui permet aux marques de certifier que les produits qu'elles ont mis sur les marchés bénéficient d'une étude en vie réelle avec donc des vraies preuves d'efficacité selon ces études. Parlez-nous un petit peu de cette mise en place de cette charte Alors, éthique.
Bah, Fabrice, il y a un point de départ, si vous voulez, sur la réflexion sur cette charte éthique. C'est notamment que, si on prend on parlait tout à l'heure des études cliniques, elles doivent être soumises, ce qu'on appelle, à un comité d'éthique préalable et ensuite à des protocoles stricts. hein, que ce soit en termes d'éthique et de responsabilité, de qualité scientifique, de sécurité, de vigilance, de réglementaire. Nous, notre parti pris, c'est de dire que les études en vie réelle doivent répondre aux mêmes critères, mis à part le comité d'éthique qui n'est pas obligatoire en amont. Ensuite, sur tous les protocoles, eh bien, l'étude en vie réelle doit coller au protocole des études cliniques. Et ces études en vie réelle doivent reposer là aussi sur quatre points ou quatre volets, si vous voulez, qui sont d'une part l'éthique et la responsabilité. Et derrière l'éthique et la responsabilité, on va mettre bien sûr la protection des données, le respect de la vie privée des volontaires, avec un traitement qui va être rigoureux, qui va garantir notamment la confidentialité et la transparence. C'est aussi derrière l'éthique et la responsabilité, comme pour une étude clinique, la transparence des résultats qui sont remis au laboratoire, que les résultats soient bons ou qu'ils soient moins bons. Hein. Donc ça, c'est toute la partie éthique et responsabilité. Ensuite, il y a bien sûr un deuxième point qui est fondamental, c'est la qualité scientifique. Et derrière la qualité scientifique, on va mettre, comme pour les études cliniques, une méthodologie rigoureuse qui est scientifiquement validée. Hein. On va travailler sur des cohortes qui sont définies selon des critères scientifiques, que ça soit en termes de volume, en termes de représentativité, de critères d'inclusion, de non-inclusion, de wash-out, bref, ou même de placebo. Donc, tous les critères qui sont les critères d'une étude qui est solide scientifiquement. On va mettre derrière aussi les outils de mesure qui sont adaptés, notamment avec des questionnaires qui sont des questionnaires standards ou pré-médicalisés. Derrière, bien sûr, tout ça, on a les analyses statistiques, hein, avec tous les outils d'analyse statistique et la supervision scientifique des études. Donc, vous voyez, déjà, sur l'étude en vie réelle, on va être collé avec le protocole des études cliniques, éthique et responsabilité et qualité scientifique. Et puis, on peut pas s'absoudre, si je puis dire, de la sécurité et de la vigilance. Ça veut dire que, bien entendu, tous les tests qui sont faits, les études en vie réelle qui sont réalisées sont faites, bien entendu, à partir d'un produit autorisé. Ça veut dire qu'on va pas faire une étude en vie réelle sur un novel food, par exemple. Et puis, comme pour une étude clinique avec la pharmacovigilance, on va mettre en place et on met en place un protocole de nutrivigilance qui permet de traquer éventuellement les effets indésirables pendant notamment la phase de supplémentation. Ça, c'est la sécurité et la vigilance. Et puis, comme tout marché, il y a des exigences réglementaires. Et derrière ce quatrième volet sur lequel reposent les études en vie réelle et cette charte éthique, eh bien, c'est de répondre à toute la conformité de l'étude en vie réelle sur les exigences réglementaires, et cela, quelle que soit la zone géographique, que ce soit nous, on conduit des études en Europe, hein, dans tous les pays d'Europe ou aux États-Unis, eh bien, on doit être parfaitement collé avec les exigences réglementaires et notamment les exploitations de CLEM à partir des tests d'efficacité. Donc, la charte éthique, elle repose sur quatre points, je le répète, éthique et responsabilité, qualité scientifique, sécurité et vigilance, et puis exigence réglementaire.
Alors, vous avez dit tout à l'heure transparence avec la divulgation des résultats qui soient favorables ou non, mais quand même, mon cher Pascal, on ne va pas payer une étude en vie réelle et publier des résultats qui sont pas bons quand même.
Eh bien, dans ces cas-là, comme pour une étude clinique, vous ne les publiez pas. Hein, c'est la responsabilité du laboratoire de décider de publier des résultats si les résultats sont finalement moyens ou pas au niveau de l'attente des laboratoires. Je dirais que la mission d'expansion sur une étude en vie réelle, c'est de mener en tant que investigateur, mener le protocole selon ces quatre critères que je viens de décrire, et ensuite de présenter les résultats au laboratoire ou à l'ingrédientiste en toute transparence. Il appartient ensuite à nos clients de décider s'ils doivent et ils peuvent publier ou pas. Mais ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de conduire l'étude selon les protocoles les plus robustes et les plus monitorés.
Alors, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que quand les résultats sont bons, on communique, et quand ils ne sont pas bons, l'idée, et je pense que c'est ça, hein, les informations dont se servent les labos, c'est de retravailler sur quelque chose pour aller reproposer un autre produit. Et donc, c'est un test un petit peu, voilà, ça sert à, c'est une bonne critique, on va dire. C'est comme une critique de restant avant de sortir le
Alors, c'est, oui. Absolument. C'est toujours source d'enseignement. De toute façon, même s'il y avait un résultat qui n'était pas à la hauteur des espérances des équipes marketing ou R&D. Maintenant, ce que l'on voit aussi, par exemple, sur les ingrédientistes, on voit assez régulièrement des ingrédientistes qui nous font tester 2 ou 3 formules différentes avec des dosages différents pour mesurer quelle est la formule qui est la plus efficace, celle qui est la moins efficace et proposer du coup le produit le plus adapté au laboratoire. Donc, il y a de toute façon une forte source d'information qui est très importante pour les équipes internes et si les résultats sont bons, l'opportunité de pouvoir communiquer.
Mais mon cher Pascal, la question qui fâche, c'est pas une petite musique de suspense pour vous, ce serait bien, attendez, bougez pas, je vérifie dans une petite base de données. Ah non, je ne l'ai pas. C'est dommage, on n'a jamais ce qu'il faut quand il faut. Mais vous-même, vous faites des études en vie réelle, est-ce que vous n'êtes pas juge et partie en faisant, en montant ce label, cette charte qualité, est-ce qu'il y a d'autres entreprises de votre secteur? Est-ce que c'est une coalition aussi d'intérêts?
Alors, ce n'est pas une coalition d'intérêts, mais ça peut l'être. Très clairement, aujourd'hui, nous, on pose cette charte éthique qui reprend les différents paramètres et les différents volets que je viens de décrire. J'ai envie de dire pour les autres, nos confrères hein, qui mènent des études en vie réelle, j'ai envie de leur dire welcome. L'idée, c'est justement de upgrader le niveau des études en vie réelle, en tout cas en termes de sérieux, en termes de charte éthique. Et ce label ou cette certification peut être tout à fait ouverte à d'autres partenaires éventuellement. Nous, pourquoi on pose cette certification? C'est parce qu'on fait un certain nombre de constats. On pose cette charte éthique parce que on s'estime légitime pour, en tout cas, ouvrir ce débat. Je vous rappelle que depuis une dizaine d'années, on fait des études en vie réelle et que par ailleurs, on a conduit à peu près 250 études hein, sur toutes les sphères thérapeutiques. Donc, on a une bonne expérience du sujet. On voit bien aussi ce que demandent et réclament les laboratoires, mais aussi les consommateurs. Et c'est la raison pour laquelle on engage cette discussion et que l'on pose cette certification.
Alors, cette certification qui va donc permettre aux marques qui l'obtiennent d'apposer un logo, comment se fera la communication sur ce logo? Comment le consommateur va se dire, bah tiens, ce logo, ça veut dire qu'il a eu une certification?
Alors, le premier point hein, sur cette certification, c'est qu'elle est contractuelle, bien entendu, avec les laboratoires. Elle fait partie de nos contrats et c'est donc un engagement de notre institut et aussi du laboratoire qui accepte que l'étude soit menée selon ses critères. Prenons un exemple, un critère d'une étude avec 2 bras dans lequel on mettra obligatoirement un placebo. Ou bien, si on met pas de placebo, au moins une donnée objective. Prenons une étude sur le stress avec un test de cortisol, une étude sur le poids avec une balance connectée. Donc, à côté de questionnaires d'auto-évaluation et de perception d'efficacité des volontaires, eh bien, une donnée objective. Ou sinon, à minima, un questionnaire qu'on va appeler un questionnaire gabarisé médicalisé. Il y en a plusieurs qui sont disponibles et que certains médecins utilisent, des SF12, etc., ou SPSS pour le stress. Et donc, déjà, il faut que le laboratoire accepte, on va dire, cette contrainte derrière cette certification, mais qui n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, nous, on pose cette charte dans nos contrats. Ensuite, à partir de là, l'étude est menée. Si les résultats sont à la hauteur des espérances des équipes, des espoirs des équipes marketing et R&D, eh bien, à ce moment-là, le laboratoire peut avoir ce logo qui peut être utilisé et qui prouve de l'efficacité de l'étude et de la charte éthique sur laquelle elle s'est appuyée, un logo qu'il peut, ce laboratoire, utiliser sur son packaging, sur son site internet et dans tous ses outils de communication.
Et vous-même, vous allez communiquer aussi auprès du consommateur?
Alors, c'est tout l'enjeu, c'est qu'il faut que ce logo de certification soit connu aussi du grand public et donc on va pousser, si je puis dire, avec les laboratoires et on va accompagner les laboratoires dans cette logique d'études en vie réelle certifiées par Expansion à partir de cette charte éthique, justement en communiquant auprès du grand public, notamment sur les réseaux sociaux, sur, je dirais, tous les produits que nous avons testés et qui peuvent répondre et que nous testerons et qui répondront à cette charte éthique et donc à cette certification. Nous certifions que l'étude et que les résultats qui sont présentés par le laboratoire sont issus d'une étude en vie réelle qui a été robuste, qui est robuste et qui répond à une charte éthique.
Est-ce que vous pensez que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, tous les produits devront au moins, à minima, pour bénéficier de certaines allégations, au moins bénéficier d'une étude en vie réelle certifiée?
Alors, de notre point de vue, ils devraient. Hein, soit avoir une étude clinique, soit avoir une étude en vie réelle certifiée à partir d'une charte éthique et donc d'une méthodologie qui soit robuste. Ça nous paraît fondamental. Ça permet de faire la différence entre peut-être des nouveaux entrants un peu opportunistes qui arrivent sur le marché et qui vont, avec quelques vidéos avant-après sur les réseaux sociaux, arriver à prendre des parts de marché, ce qui peut décrédibiliser aussi le marché du complément alimentaire. Donc, il faut être quand même prudent sur ces points-là. Et puis, je dirais que globalement, bien évidemment, il y a, ça fait sens, si je puis dire, l'idée de, eh bien, que tous les produits puissent certifier leur efficacité, la rapidité des effets, etc.
Bon, en tout cas, c'est parfait. On milite de toute façon pour la fin du marketing un peu flou en nutraceutique. Ce sera au bénéfice des marques, au bénéfice des consommateurs, de tout le monde. Donc, merci beaucoup pour cette contribution, Pascal. C'était très
merci
intéressant, toujours très intéressant. Émission que vous retrouvez donc en podcast tout de suite. Si vous venez d'arriver, on vous la met tout de suite sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et c'est le retour de la musique tout de suite si vous êtes sur le live, tout de suite sur Nutriradio. Au revoir, Pascal.
Au revoir, Fabrice.
Nutractu sur Nutri Radio.